Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Wow.
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle bulle d'histoire sur Art District Radio. Je suis évidemment avec un auteur de bande dessinée, avec un scénariste prolifique, Nicolas Jarry. Nicolas, on va parler d'une série que moi je trouve fascinante qui s'appelle Guerre et Dragon. Voilà, c'est un peu un thème inédit dans mes interviews. Mais avant de commencer, je te pose la question traditionnelle qui ouvre toutes mes bulles d'histoire, c'est qui es-tu et d'où viens-tu ?
Alors, je viens du roman à la base. J'ai écrit un premier roman à 20 ans et j'ai rencontré après des gens de la BD, que ce soit Alestone, Jean-Luc Istin, Thierry Jor, et je me suis mis à écrire donc de la fantasy, surtout de la fantasy, mais j'ai fait pas mal de petits crochets par l'histoire, l'historique, que ce soit le Trône d'Argile, que ce soit Braise. J'ai toujours flirté, on va dire, avec cette branche.
Donc là, on va parler d'une série assez étonnante qui mêle histoire militaire, mais pas que, en tout cas, histoire militaire, diplomatique, avec la fantasy, avec des dragons qui arrivent dans des épisodes, donc Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, des guerres africaines. Comment tu as eu l'idée de marier le dragon et l'histoire militaire ?
En fait, la série a été créée un peu comme les autres séries, c'est-à-dire que je m'assois en face de Jean-Luc Istin, on discute, et au bout d'un moment, il y a toutes nos idées qui remontent, et je me rappelle, il avait un titre en tête, « Guerre et paix », et moi je voulais faire un truc avec les dragons, et puis il me regarde, il me fait bah, « Guerre et dragons », et on n'avait pas de concept, hein, juste le titre, et là je me suis dit « Oui, c'est génial, des grandes batailles, bien cadrées au niveau historique, mais avec une petite chose qui change, des dragons ». Et donc, du coup, on est parti là-dessus. Enfin, je suis parti là-dessus. Et puis, mais ça remonte déjà à bien 6 ans. Hein.
Oui, parce que le dragon, évidemment, on l'identifie très clairement. Bon, évidemment, au Seigneur des Anneaux, avec c'est la dernière grande apparition des dragons, des magnifiques dragons. C'est inattendu. Alors, tu me parlais avant de commencer l'émission du public potentiel de ces bandes dessinées. Qu'est-ce que tu visais ?
Je visais, disons qu'après coup, je me suis dit, il y a de l'historique. Il y a de la fantasy, un joli dessin. Donc, les historiens, ceux qui aiment l'historique, vont aller vers cette BD par curiosité. Et inversement, ceux qui aiment la fantasy vont aller vers cette BD. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. La plupart ont été un peu rétifs. C'est-à-dire, les historiens ont vu un dragon, ils se sont dit ouais, « c'est quoi ce truc ?» Et inversement, ceux qui aiment la fantasy, ils se sont dit « voilà, il y a des avions, ça a l'air historique. » Et petit à petit, en fait, les gens sont rapprochés de la série et n'ont pas été déçus. Donc, elle marche bien, elle démarre doucement, mais sûrement. Et pour l'instant, ça se passe pas trop mal.
L'autre, on va parler de ce que font les dragons dans cette histoire, mais avant, je voulais parler du dessin. Donc toi, tu es le scénariste, donc on va évacuer, entre guillemets, le problème du dessin très très vite. Il faut des dessinateurs qui soient à la fois capables de faire des dragons et capables de faire des avions, mais aussi de faire des humains qui ne soient pas des nains ou des orques. Voilà, il faut marier ces deux styles, et quand on connaît un peu la bande dessinée, c'est des mondes qui ne sont pas faciles à marier.
Oui, alors des fois, on emprisonne un peu les dessinateurs, enfin les auteurs en général, dans un style. Mais on se rend bien compte qu'on peut passer d'un style à l'autre. Vax, il a fait de la fantasy, et là, il arrive, il fait du réalisme. Donc, en fait, on leur a demandé s'ils avaient envie, et quelqu'un comme Lucio, qui est sur le tome 2, lui, c'est un fan d'historique. Donc, quelque part, il allait beaucoup plus loin même que moi sur les avions, sur les costumes, sur comment ça se passait à cette époque. Et il y a eu un vrai échange là-dessus. C'était très intéressant.
Parce que ce qui est fort et qui fait, je pense, l'intérêt de la série, c'est que c'est une série qui est extrêmement bien documentée. À la fois, les dragons, c'est de la fantasy. Évidemment, les dragons n'existent pas. En tout cas, on n'en a jamais vu encore, des gros comme ça.
C'est ça.
Mais tout le reste, par exemple le tome 2 qui est consacré à la Première Guerre mondiale, moi je l'ai fait lire à des spécialistes de l'aviation de la Première Guerre, ils m'ont dit il n'y a quasiment aucune erreur. Quoi. Tout est documenté, réaliste, il y a les problèmes de moteur, les problèmes d'aile, les problèmes d'avion.
Alors ça c'était un peu mon côté, le côté technique, c'est-à-dire voir les avions qui existaient, lesquels on peut prendre, la puissance, la vitesse, etc. Ça m'intéresse. En fait, j'ai toujours été, même quand j'ai écrit mon premier bouquin, il y avait l'histoire des navires, et du coup, techniquement, les navires, comment ça fonctionnait. Donc ça, ça m'a toujours intéressé. Et après, il y a le côté graphique qui est compliqué à faire coller à une espèce de à la réalité, quoi, parce que ça lui demande beaucoup de travail. Mais ça, c'était vraiment sa passion. Donc du coup, effectivement, sur le tome 2, on est béton. Ça, on peut le dire. Parce que tous les deux, on sait, moi le côté technique et lui le côté beaucoup plus historique, beaucoup plus visuel, quoi. Et on s'est bien complété.
Ouais, parce que le côté technique va même jusqu'à calculer la puissance du moteur qui est nécessaire pour combattre le dragon.
Bon, c'est ça. Même les mitraillettes, toutes les mitrailleuses, les poids. C'était intéressant de se dire, on fait quelque chose de fantasy, mais dans cette fantasy, il y a des règles. Et ça, même quand j'écris de la fantasy, je m'astreins à ça, c'est-à-dire que la fantasy, ça ne veut pas dire n'importe quoi. Ça veut juste dire un monde qui ne fonctionne pas forcément comme le nôtre, mais qui a ses propres règles. Et là, les règles, ce sont les règles de notre monde. Donc, les dragons s'adaptent aux règles de notre monde. Donc, du coup, tout devait être réaliste pour que l'histoire elle-même soit réaliste et qu'on puisse y croire.
Alors, une de mes questions, c'est pourquoi le dragon est forcément quelqu'un de méchant ? Même si dans le troisième tome, on s'aperçoit qu'il peut y en avoir des gentils. Mais en tout cas, les premiers sont des méchants de bêtes.
Oui, en fait, non, ça s'équilibre, même dans le tome 1. En fait, le dragon, il est lié à un humain. Il se lie, on va dire, par hasard. Ça, on découvrira si c'est vrai ou pas plus tard. Donc, il va interagir avec l'humain. Et cet humain, ça va dépendre, en fait, de cet humain, ce qu'il va vouloir faire de cette créature. Des fois, il ne veut rien en faire, quoi. Il se retrouve bien emmerdé de se retrouver avec un dragon au milieu d'une guerre dont il n'a même pas conscience des enjeux. Et donc, du coup, comment il va se dépatouiller de ça? Et c'était ça qui était intéressant, c'est mettre au centre du jeu des personnages qui ne sont pas forcément des héros à la base. Alors là, c'est un petit peu différent dans le tome 2, où notre personnage n'est pas lié à un dragon, mais veut tuer le dragon. Là, on est plus dans le chevalier, voilà.
Oui, c'est ça, c'est que le dragon tisse un lien avec les personnages.
Exactement, il tisse un lien avec un personnage. Là, pas de bol, le plus gros des dragons a tissé avec un lien avec un Allemand. Voilà. Et il se trouve que ce dragon, c'est l'équivalent du Baron Rouge, mais en version 26 tonnes, quoi. Voilà. Et donc, l'intérêt de toute cette histoire, c'est comment abattre ce monstre avec les zincs de l'époque, qui sont des allumettes volantes, quoi. Hein, faut dire ça.
Alors, comme je ne m'intéresse pas du tout à ce monde, j'ai quand même réfléchi à tout ça en lisant les albums, et je me suis aperçu que le dragon, c'était un être qui avait des possibilités infinies de scénarisation. Pour moi, c'était juste une bête qui crache du feu et qui va griller quelques humains, quelques châteaux par-ci, par-là. Mais toi, tu arrives à en faire un être qui a des potentialités presque infinies.
Ouais, parce que le dragon, en fait, c'est un vecteur. C'est-à-dire que suivant où on le place dans l'univers, où on le place, on peut l'amener à être ce que l'on veut, en fait. Et souvent, quand on fantasme un peu un univers, on pense à un dragon parce que il synthétise un peu tout ce merveilleux, toute cette fantaisie. Et là, en le plaçant dans un univers très réaliste, il faut lui créer des règles réalistes. Mais comme on verra, le dragon lui-même s'adapte au, on va le voir donc à différentes époques, différents dragons, et on va comprendre que le dragon n'est pas le même en 1914 et en 1980. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une évolution, il y a quelque chose qui se passe, une espèce de symbiose avec le monde, avec la guerre environnante, quoi. C'est comme s'il était l'expression de cette guerre, quoi, le dragon.
Ouais, et là on va parler du tome 3 qui, à mon avis, enfin, qui moi m'a le plus touché parce que les personnages sont très touchants. Il y a des enfants, voilà, c'est des enfants soldats. Là aussi, c'est très documenté dans l'horreur de la guerre. Et là, les humains sont quasiment plus terrifiants que les dragons.
Ouais, là, c'est un peu comme avec les zombies. On commence par avoir peur des zombies et on finit par avoir peur des survivants à la fin. C'est un peu la même histoire.
Alors, est-ce que tu peux nous faire le pitch du troisième tome Je ne sais pas s'il est sorti. Je l'ai reçu, moi. Je ne sais pas s'il est déjà sorti.
Alors, le troisième tome, c'est au moment où les Portugais se retirent d'Angola. Du coup, laissent un vide. L'Angola est décolonialisée. Pardon. Et du coup, forcément, tu as les deux blocs américains et URSS, Est-Ouest, qui vont faire leur guerre froide comme partout et qui vont instrumentaliser deux factions d'Angola pour se faire la guerre et garder le pouvoir sur les lieux. Et il y a une des factions qui utilise des enfants soldats. Voilà. Et donc, on va suivre l'itinéraire d'une jeune fille qui devient enfant soldat et qui se souvient de cette légende du Konga Mato, cette créature qui est venue défendre le village plusieurs fois, mais on n'en sait pas plus. Et donc, on déroule l'histoire comme ça, petit à petit.
Oui, sachant que le méchant de l'histoire, donc, qui est un des chefs de guerre de cette aventure, lui, il a un lien avec un dragon particulier. Il utilise un dragon comme arme de guerre.
C'est ça. Alors, le dragon n'est pas spécialement méchant, mais lui-même étant un fou furieux qui pense avoir raison, comme beaucoup d'autres avant lui, et il est le plus fort en état de cause parce qu'il a un dragon sous ses ordres. Donc, du coup, il fait régner la terreur dans la région.
Donc, dans ce troisième tome, tu introduis de la magie qui n'était pas dans les premiers.
Alors, il n'y a pas de magie. Si on regarde bien, on reste sur les mêmes règles, en fait. C'est-à-dire que, sauf que, à un moment, pour qu'elle soit liée à ce dragon, il faut qu'il y ait des conditions. C'est ce que lui dit son grand-père. Et alors, sans spoiler, toute l'histoire, une quête intérieure pour arriver à se lier avec ce dragon. Mais comme dans le tome 1, la jeune fille a été liée au dragon, comme dans le tome 2, l'allemand était lié au dragon. Donc en fait, on reste sur cette problématique, juste on le prend d'un autre point de vue. En fait, c'est toujours la même problématique, mais d'un autre point de vue.
Oui, parce que là, elle, dans les autres tomes, le dragon, il existe, on ne sait pas trop comment il est arrivé, mais là, elle crée un dragon, elle crée un dragon sort d'elle.
Alors là, c'est la question, c'est les dragons, où ils sont? Pourquoi? Et pourquoi ils apparaissent quand il y a les guerres? Voilà. C'est-à-dire, est-ce qu'ils dorment en quelque part? Alors, ce n'est pas ça, mais ça, je ne peux pas le développer, je sais. Voilà. Mais normalement, toutes les règles sont préétablies. C'est-à-dire que je ne les fais pas évoluer au fur et à mesure. Tout est logique. Et s'il arrive ça, c'est que c'est logique. Peut-être qu'à un moment, on comprendra exactement le fond de l'histoire. Mais je ne pense pas que ça soit l'intérêt dans cette série de comprendre exactement d'où viennent les dragons, qu'est-ce qui se passe, etc. Je crois vraiment que l'intérêt... c'est de comprendre que c'est de mettre au centre petit quelque chose qui change la donne et qui nous montre l'histoire sous une autre facette. Voilà, c'est on s'amuse un petit peu aussi, mais on est sérieux, mais on s'amuse.
Voilà. Ouais, je pense que si on essaye de savoir d'où viennent les dragons, à la limite la série perd un peu de son intérêt, parce que
exactement,
le plaisir c'est d'accepter a priori que le dragon existe,
c'est ça, et d'accepter que des scénaristes fait sa part de travail, il a des règles et il n'y déroge pas. Il n'y a pas d'arrivée impromptue ou de choses incroyables qui vont se passer sans logique. Voilà.
Donc, quand tu crées une histoire comme ça, tu te fixes des règles a priori, des contraintes, les contraintes, elles viennent au fur et à mesure de l'écriture?
Non, c'est la première chose que je me fixe, c'est dans quelle mesure il y a les dragons, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent arriver, quelles sont leurs limites, parce que sinon... on en arrive à ce que les lecteurs se rendent vite compte que c'est juste un prétexte de temps en temps pour faire avancer l'histoire, pour la faire, voilà. Donc non, voilà. Et je me mets à la fois des entraves, mais c'est ces entraves qui font que ça me pousse un petit peu plus loin dans le scénario. C'est-à-dire, ok, j'ai l'histoire, ça je ne peux pas le bouger. J'ai le dragon, ça je ne peux pas le bouger. Maintenant, comment l'un et l'autre vont s'interconnecter pour créer vraiment une histoire à part entière, voilà.
Et ça, c'est une façon d'écrire qui est valable pour toutes tes histoires ou que pour les dragons? Parce que tu fais cette série, j'en ai lu quelques-uns, donc la série des nains, qui est une énorme série, je crois qu'il y a 20, 25 ou une vingtaine de nains.
Ouais, c'est ça.
Ça ne s'arrête pas et le public adore, quoi, parce que ça marche bien. Et quand on a fait 20 tomes, c'est que les gens aiment bien. Quoi. C'est à chaque fois la même technique d'écriture?
Oui. Alors, nain, c'est un peu différent. Les règles sont, même si c'est de la fantasy, il n'y a pas beaucoup de magie. Nain, c'est écrit vraiment comme un miroir de notre propre monde. C'est-à-dire que les personnages, une fois que je les ai campés, eux, mon fil rouge, c'est leur psychologie. C'est-à-dire c'est eux qui font avancer l'histoire, c'est eux qui me permettent d'avancer et qui me donne des challenges aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses qui vont arriver, un troll qui va... Voilà, non, c'est eux et leurs propres problématiques. Comment ils vont arriver au bout de leurs propres problématiques? Voilà. Donc, en fait, ce qui est important, je pense, dans le scénario, pour que le lecteur soit réceptif, c'est que la structure du scénariste, sans que ça se voit, se sente. Ça ne doit pas se voir, mais ça doit se sentir. Ça doit être quelque chose, on doit se dire, il sait où il va, et de toute façon, il ne va pas m'embrouiller, quoi. Voilà. C'est, je peux lui faire confiance, et là, on peut lâcher les rênes.
C'est exactement ce qui se passe dans Dragon, c'est qu'on on est vraiment au cinéma, quoi. On est dans un fauteuil, et on te suit, ouais. Et on te fait confiance, voilà. et on sait que, de toute façon, les dragons existent. Donc, il n'y a pas de question à se poser.
Bien sûr, un dragon existe, évidemment.
Tu parlais de psychologie. J'ai l'impression aussi que dans tes histoires, les dragons, même s'ils sont liés à des humains, de temps en temps, ils ont aussi une forme d'autonomie. Ils font pas que ce que disent les humains. Tu arrives à les autonomiser.
C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, je ne l'ai pas encore trop travaillé, je ne sais pas si je le travaillerai beaucoup, mais le dragon est une créature à part entière. Et à travers ce lien entre l'humain et le dragon, il y a un équilibre qui se fait. Donc, on peut imaginer plein de choses à partir de là. C'est intéressant. C'est qui tire la couverture à lui, qui c'est qui influence l'autre. À terme, qu'est-ce qui peut se passer? Voilà, c'est des questions que j'aime me poser. Je ne sais pas si ça débouchera sur quelque chose, mais c'est des problématiques qui peuvent être intéressantes aussi.
Parce que ce qui est drôle, c'est de parler très sérieusement d'histoire de dragon, comme si ouais. On allait en récupérer un en sortant de chez nous, quoi. Bon, tu dois être habitué. Moi, je ne suis pas habitué à ce monde. Donc c'est très surréaliste. Mais c'est ça qui
est agréable. Je suis très théoriste, moi. Mais tant qu'elles se tiennent, ça me fait toujours marrer.
Alors, l'autre chose avec tes dragons à toi, c'est qu'ils sont aussi très malléables et ils s'adaptent à tous les enjeux, j'allais dire, de géopolitique, de militarisation. C'est une créature qui, à la fois énorme, mais qui se met dans tous les petits interstices des problèmes humains.
Eh ben, en fait, oui, alors là, ça a été vraiment le jeu du scénariste. C'est-à-dire, comment tu fais d'une grosse bête monstrueuse qui peut tout défoncer un enjeu de scénario psychologique avec son personnage qui est lié. Et c'est là où tu dis, dans les interstices, c'est ça. Tu te glisses dans les interstices de l'histoire et c'est là où tu peux jouer, en fait. Et ça, c'est intéressant parce que à chaque fois que j'ai fait l'historique, ce que je préfère, c'est les zones d'ombre, en fait. C'est là où on ne sait pas trop où on passe d'une chose, voilà, sur un an, ben on ne sait pas trop ce qui s'est passé, on sait qu'on est arrivé là, et c'est là où c'est intéressant. C'est là où on peut apporter sa patte psychologique, on peut. Donc tout l'enjeu, c'est ça, c'est titans, comment les humaniser entre guillemets, quoi. Comment faire en sorte que l'histoire fonctionne et qu'on n'ait pas juste des combats, avec des dragons et des avions qui tirent sur des dragons, quoi, parce que ça serait limité.
Tous les trois, il y a une véritable histoire en plus de l'histoire du dragon. Il y a des personnages que moi je trouve qui sont vraiment bien écrits, bien dialogués. Voilà, il y a à la limite l'histoire pourrait se dérouler sans les dragons, avec autre chose.
Exactement. Je pense toujours aux Dents de la Mer. C'est peut-être c'est quelque chose qui est une référence pour moi. C'est-à-dire que il y a vraiment une histoire complète. Le requin, quand on y passe, le 1, on ne le voit pas beaucoup, hein. c'est pas ce qu'on voit. Et pourtant, il occupe l'espace, mais en fait, les personnages, eux, ils vivent, et c'est pour ça que ça fonctionne bien. Et c'est pour ça que les nouveaux films de requins, ils ne fonctionnent pas. Parce qu'on voit un requin qui défonce tout, qui est gigantesque, mais en fait, les personnages ne vivent pas autour, la plupart du temps. C'est pas réaliste, c'est pas crédible. Alors que le 1, c'est une histoire d'humain, et il y a un requin, quoi. C'est ça.
Ouais, bah, en t'écoutant, c'est exactement ce qui se passe dans Dragon. C'est que, bon, évidemment, ils arrivent et il y a des images absolument magnifiques, des belles doubles pages avec des combats de dragons. Enfin, voilà, on prend aussi son pied parce que les dessinateurs sont des monstres de dessin. Donc, ça fait aussi partie du plaisir. C'est que c'est vraiment des bons dessinateurs. Mais là aussi, quand tu parles de ton travail, les dragons, ils apparaissent pas tellement dans les bandes dessinées. Ils apparaissent pas souvent, quoi.
Non, ils sous-tendent l'histoire, mais ils sont pas souvent à l'image, en fait. C'est ça qui est important.
Oui, c'est-à-dire qu'on est comme les personnages, on se demande à quel moment on va le prendre sur la tête, quoi.
C'est ça. Ben, tout l'enjeu, Spielberg l'avait dit, hein, l'intérêt d'un monstre, c'est qu'on le voit pas trop. Hein. Enfin, je sais pas s'il a dit ça exactement comme ça. Hein, voilà.
Il a dû le dire.
Voilà. Ou dans Alien, le 1, voilà, on en revient là. C'est-à-dire qu'on ne parle jamais mieux d'une créature que à travers les humains qui vivent cet état de fait, mais sans que la créature soit là, quoi.
Est-ce qu'il y a des limites dans l'écriture de ce genre d'histoire? Est-ce que ça peut rentrer dans toutes les histoires, dans toutes les guerres?
Pour l'instant, je ne me suis pas mis de limite. On envisage même des choses un peu étranges. Donc, à voir, c'est toujours pareil, ça dépend. Il faut trouver le bon axe dans lequel regarder l'histoire. Voilà, c'est ça. Donc, je pense que tout est possible. Après, faut être subtil, quoi. C'est ça le problème. C'est qu'il faut vraiment être toujours très subtil et y aller par touches. Sinon, on peut vite tomber dans quelque chose de Godzilla, quoi, dans les mauvais Godzilla, on va dire, quoi. C'est-à-dire que ça n'a plus d'intérêt, juste un spectacle visuel.
Parce que pour l'instant, tu as 3 histoires. Bon, j'imagine qu'il y en a plein d'autres en préparation. Mais en tout cas, les 3 histoires publiées sont des histoires du XXe siècle. Donc, avec des moyens pour détruire les dragons qui sont assez puissants, assez radicaux, quoi. C'est de la bombe, de la mitraillette, du missile, c'est tout ça. Est-ce qu'on pourrait imaginer des dragons au temps de Louis XIV, de la guerre de Cent Ans
Oui, mais j'ai des synopsis, mais je me suis dit l'intérêt est beaucoup moindre, parce que là, on descend petit à petit vers la fantaisie. C'est-à-dire qu'on en arrive à ce que le dragon, on finit avec un chevalier qui va tuer un dragon, quoi. Il n'y a pas d'intérêt, autant que je l'écrive dans les Terres d'Aran, dans les bouquins de fantaisie. Donc du coup, je pense rester vraiment sur l'époque moderne. On peut imaginer l'époque napoléonienne, pourquoi pas, ça pourrait être drôle. À l'époque napoléonienne, ça pourrait être drôle. Même au temps du Far West, pourquoi pas. Mais là, je préfère explorer des époques un peu modernes. J'ai un autre album qui se passe donc, dans le Pacifique, la guerre du Pacifique, avec des dragons marins. Ouais, et je voulais faire un autre album, et là je suis dessus. On imagine des dragons dans la jungle, au Vietnam. Et là ça devient un peu plus claustrophobe, un peu plus stressant, on va dire.
Ouais, parce qu'il faut faire rentrer les dragons dans la jungle. Là, j'imagine que c'est plus simple.
Là, c'est plus simple. Et puis l'homme, là, il est vraiment, il redevient la proie, quoi.
Est-ce que dans tes histoires de dragons, il y a aussi une volonté de faire réfléchir sur le monde contemporain? Est-ce que le dragon, c'est une allégorie de quelque chose, ou est-ce que c'est vraiment du pur plaisir romanesque?
Les deux, mon capitaine. C'est comme quand j'écris de la fantaisie, c'est rare que j'écrive un scénario où je n'ai pas un petit quelque chose à dire. Mais parce que pour moi, c'est important, c'est un peu mon moteur. Mais par contre, je ne cherche pas à mettre le doigt sur quelque chose et dire ça c'est bien, ça c'est mal. Ça n'a jamais été mon truc. Par contre, j'aime mettre en lumière des petites choses. Effectivement, le dragon, on peut pas nier que c'est l'expression de la guerre, quoi. Que c'est l'expression de la guerre. Et il y a des petites choses, mais j'aime pas le développer. J'aime pas mettre le doigt dessus et j'aime pas dire exactement ce que c'est. C'est à chacun après de voir. Si on a envie de voir une BD pure plaisir, on y voit une BD pure plaisir. Si on voit des petites choses effectivement qui nous interpellent, tant mieux. Voilà, tant mieux. Mais c'est pas le but premier. C'est le deuxième effet, on va dire.
Ouais, comme disait John Ford, si j'ai un message à faire passer, j'envoie une lettre, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça.
Parce que je te posais cette question parce que autant dans les deux premiers, on voit des enjeux, mais en même temps, c'est des périodes passées, c'est des choses qu'on connaît. On n'est pas forcément surpris par les enjeux de ces périodes-là. En revanche, pour le troisième, là, on est aussi dans l'actualité, dans les guerres africaines, dans le problème des enfants soldats, des enfants exploités. Là, il y a une vraie raison avec ce qui se passe.
C'était quelque chose qui m'avait touché, j'avais vu ça, j'étais très jeune, une émission là-dessus, et ça m'était resté, quoi. Et le plus difficile dans cet album, c'est de faire en sorte que les humains s'aident eux-mêmes avant que le dragon ne soit pas là comme une espèce de héros ou même le méchant absolu, quoi. Donc, l'intérêt, c'était vraiment de faire interagir les humains et que les humains soient ceux qui font l'histoire. Et voilà.
Nicolas, on va conclure là-dessus parce que c'est une belle conclusion et puis ça fait déjà le temps de l'émission qu'on discute. Merci beaucoup. Je rappelle aux auditeurs et auditrices la série Guerre et Dragons. Il y a 3 volumes qui sont parus. C'est publié par les éditions Soleil. Et moi, je recommande parce qu'on prend un pied absolument terrible à lire ces histoires de Guerre et de Dragons. Et c'est bien écrit. Les dessinateurs choisis sont absolument extraordinaires. Il faut absolument lire ça. Et donc, je te remercie. Et puis, peut-être à une autre interview pour une autre série.
Eh bien, avec plaisir et un grand merci à toi.
À bientôt.
À bientôt.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil. Waouh! Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.